de Jean Richepin en robe blanche. Souriant et bonhomme dans sa barbe hirsute de patriarche, mais avec des fusées ici et là, de petits éclairs narquois sous le cristal de ses lunettes à fines branches d'or, le vieux philosophe de la rédaction avait religieusement écouté, sans interruption ni commentaire, toutes les histoires d'amour racontées par ces jeunes gens, et en particulier par le beau Paul de Rouexens, le commanditaire du journal, l'incontestable et incontesté arbitre élégantiarum de la bande. « Eh, parbleu ! » s'écria-t-il soudain, « vous êtes tous des tourbeurs de femmes, voilà qui est entendu !» Puis s'adressant à Paul de Rouexens, « Vous surtout, cela va de soi !» Et en enchérissant, développant la voix, presque oratoire, le geste en ostensoir admiratif, « Oh, que ce soit dans le monde ou dans le demi-monde, vous n'avez qu'à le vouloir, on le sait, et même simplement apparaître, fût-ce sans le vouloir, pour être le grand vainqueur. » Ici, avec des flûtes câlines dans l'organe, au début et ensuite avec une savante brutalité, dont la rudesse était d'autant plus flatteuse, « Croyez bien que je vous en félicite de tout mon cœur, car cela doit être infiniment agréable. » Mais permettez-moi de ne pas m'en étonner outre mesure, car la chose s'explique de reste par un tas de raisons, physiologiques et psychologiques, morales et immorales. Continuerait d'abord que votre physique. Le menton, qu'il portait déjà haut naturellement, encore rehaussé par ce gros compliment en plein visage, Paul de Rouexens se rengorgeait, épanoui dans sa réelle beauté de belge à chair blanche et rose, à cheveux roux et bouclés, coura à grands yeux d'un azur profond où semblait être resté le chaud soleil de la conquête espagnole. En toute sincérité et sans cajolerie intéressée envers un commanditaire, on pouvait proclamer qu'il avait tout ce qu'il faut pour plaire aux femmes et être cette sorte de don Juan qui, dans n'importe quel monde, dès qu'il est l'amant de l'une, est désiré par toutes les autres. Et donc le vieux philosophe de la rédaction, sous ses apparences de thuriféraire, n'était que véridique. Mais s'il avait accentué la flatterie, le bonhomme, c'est qu'il avait à y faire des restrictions, longtemps contenues, manifestées seulement jusqu'ici par les fusées de petits éclairs narquois sous le cristal de ses lunettes à fines branches d'or, et qui éclatèrent enfin, impatientes, dans cette brusque et inattendue sortie. N'empêche que, malgré tous vos atouts, moi, comme homme aimé, moi, je vous fais capot. Ainsi que son compliment de tout à l'heure, c'est en plein visage qu'il envoyait cela au beau Paul de Rouexens, sans crier gare, d'un coup, à la façon d'un chanfreneau. On prit la chose, le commanditaire tout le premier, pour une plaisanterie, et on l'accueillit par un grand éclat de rire, la trouvant drôle à cause de son imprévu. « Ne riez pas, reprit le vieux philosophe, il n'y a pas de quoi. Moi, vous le voyez, je ne peux penser à cette histoire, plus belle que toutes les vôtres, à cette exquise et délicieuse histoire d'amour, de pur et véritable et ingénu amour, sans en avoir encore envie de pleurer. » Il s'était dit d'un ton grave, qui fit s'éteindre respectueusement tous les rires, malgré l'habitude qu'on avait de tourner le bonhomme en ridicule, et quoi qu'il y prêtât plus particulièrement que jamais pour le moment. Car il avait ôté ses lunettes, mettant à découvert les gros globes de ses yeux de myope, resté myope à 60 ans passés. Et tantôt sur ses yeux fermes, tantôt sur les verres embués de ses lunettes, il appuyait son mouchoir à carreaux, un mouchoir d'invalide, sans qu'on puisse savoir et sans qu'il eût l'air de savoir lui-même si les larmes étaient dans ses yeux ou dans ses besicles. Tout en aimant à s'amuser de lui, on le prisait comme bon conteur quand il voulait s'en donner la peine, et on sentait qu'il allait compter. Il n'y avait qu'à se taire pour qu'il parlât. On se tut, sur un geste du commanditaire, curieux de connaître en quoi le bonhomme avait pu, comme homme aimé, le capot, lui, le beau Rouexens. « Il y a de cela 20 ans environ, commença le vieux philosophe, j'étais encore moins joli que je ne suis à présent, et ce n'est pas peu dire. » Aujourd'hui, ma barbe blanche et l'or de mes lunettes me donnent quelque chose de vénérable qui a son charme. Alors, je n'avais pas même cela. Mon poil couleur queue de vache, un mauvais lorgnon rouillé, des vêtements d'ébine de pauvre professaillon qui courait le cachet à 20 sous, une misère noire et indécrottable, le ventre creux et l'orgueil en pleine déroute, tout me rendait d'une laideur spéciale, magistrale, unique, et je peux l'avouer, véritablement hideuse et impérieusement repoussante. Un léger murmure d'approbation reconnut l'exactitude probable de ce portrait rétrospectif. Le vieux philosophe y répondit par un salut de remerciement goguenard et continua. Mais c'est dans cet état pourtant que j'ai eu la chance d'être aimé, comme aucun de vous certes le fut, je répète. Que voulez-vous ? C'est invraisemblable, mais cela est. L'amour souffle où il lui plaît, n'est-ce pas ? C'était d'ailleurs, je me hâte de le déclarer pour rendre l'invraisemblable moins criant, c'était par une toute jeune fille. Tranchons le mot et disons tout. C'était presque par une enfant. Quelques rigolos risquèrent un « oh » de feinte indignation. Le bonhomme fit chorus, rinforzando. Moi aussi, parbleu, reprit-il. J'eus à haut le corps quand cette gamine me poussa la botte. Imaginez-vous une gosseline de 13 ans à peu près, pas beaucoup plus, mais jolie par exemple, oh, une petite faunesse. Et dire que depuis 6 mois, paraît-il, je passais chaque jour devant elle sans la voir. C'est elle qui me l'a pris. Oui, tous les matins, en allant faire un cours de bachot dans une boîte de la rue Monsieur le Prince, je m'arrêtais à bouquiner chez le père Meusiot. Et elle demeurait en face, servante dans une vague blanchisserie. Servante, vous entendez, à cet âge-là. Elle me dit tout cela d'une haleine, en me tutoyant au reste, et en m'offrant carrément de venir coucher avec moi. Oh, vous voyez d'ici mon bond en arrière. Il le refit par souvenir en manquant de choix de sa chaise. La gaieté avait repris ses droits. On riait. Il riait aussi, surtout en rappelant la terreur qu'il avait eue alors, à l'idée que quelques marlous du quartier lui avaient dépêché cette môme dans l'espoir de le faire chanter ensuite. Et il imitait la grosse voix avec laquelle il l'avait envoyée au diable, la traitant de petite saloperie et la menaçant du sergent de ville. Du coup, il avait cessé de passer par ce bout de la rue. Mais 8 jours plus tard, la petite masque l'avait arc-pincé à l'autre bout et lui avait dit, en pleurant et en sanglotant, « Oh, je sais bien pourquoi que tu veux pas. C'est parce que tu crois que je fais la noce, hein. Eh ben, c'est pas vrai, non. Jamais, jamais avec personne. Et toi, je t'aime, voilà. Je veux que tu me prennes. » Et des détails extraordinaires au dire du vieux philosophe. Avec quel mot orduriez, mais quelle âme naïve, elle expliquait tout cela. Il le narrait et le commentait délicieusement. Hé, dit quelqu'un, on dirait que vous en avez des regrets, vieux paillard. Oui, répliqua-t-il, j'en ai des regrets, mais de son âme. Et de nouveau, on n'eut plus envie de rire, tant il prononça cela tristement. « Oh, j'ai eu tort d'entamer cette histoire, » ajouta-t-il. « Je ne pourrai jamais la finir. » On se récria, on le supplia d'achever. Alors il se laissa faire. Il avait, depuis un moment, remis ses lunettes. Il les ôta de rechef pour pleurer tout à son aise, cette fois par grosses larmes lentes. « Comment, » reprit-il, « avait-elle sur mon domicile ?» Et comment, surtout, avait-elle pu s'y introduire? Je l'ignore, mais toujours est-il qu'une nuit, en rentrant, je l'y trouvais, couchée dans mon lit. Elle me jura que si je ne couchais pas avec elle, elle se jetterait par la fenêtre. En même temps, elle sauta hors du lit et se précipita dans mes bras. Elle était vêtue d'une robe de mousseline blanche. Comme je balbutiais de rapides interrogations, très inquiet de l'avoir exaltée à ce point, Elle me répondit qu'elle s'était habillée ainsi pour être mariée, puisque nous allions nous marier ensemble, et que c'était là, au reste, une toilette de première communion, et qu'elle l'avait volée à sa patronne exprès, afin de venir chez moi comme un petit ange, puisqu'elle en était un. Et des choses, des ribambelles, choses pareilles, suaves, tendres, poétiques, d'une invention, d'une grâce. Et aussi, qu'elle avait plus de 13 ans, na, qu'elle en avait 15 passés, parfaitement. Et qu'enfin, du 5e où je logeais, jusque dans la cour en bas, elle se tuerait pour sûr et tout de suite si. Le bonhomme ne pouvait réellement plus finir son histoire tant il sanglotait. Bref, fit Wexins avec un gros rire. Qu'arrive-t-il, homme si aimé? Allons, dites-le. Le vieux philosophe remit ses lunettes, les assura sur son nez, darda vers le donjon belge à travers le cristal un regard chargé de mépris, puis, au grand ébahissement de tous, répliqua tout à trac. Vous ne méritiez pas que je vous racontasse cette histoire, monsieur. Vous êtes un tombeur de femmes, sans doute, monsieur. Mais vous ne savez pas ce que c'est que l'amour, monsieur. Puis après un long jet de salive, lancé dans son mouchoir d'invalide, « Vous ne serez jamais qu'un cochon, mon petit !»